Pour ceux qui la regardent aux actualités télévisées, la guerre est une triste réalité. Mais si vous êtes directement concerné, c'est une catastrophe. Malheureusement, les conflits en tout genre sont inhérents à un monde déchu, que ce soit sur Terre ou dans les cieux. S'il est vrai que Satan mène une guerre farouche contre l'Éternel et son peuple, que ce soit les Juifs ou les croyants, il faut garder à l'esprit qu'elle est uniquement possible parce que Dieu le veut bien et que dans une certaine mesure, c'est sa volonté. En effet, il suffirait d'un mot de sa part et on ne trouverait plus trace du diable et de ses cohortes, mis à part l'abîme où ils seraient tous enfermés à double tour. On peut être sûr que si les démons jouissent d'une certaine liberté surveillée, c'est parce qu'ils contribuent à la gloire de Dieu. On sait aussi que leur présence permet de donner aux hommes le choix entre obéir au Seigneur ou à Satan. Il existe encore d'autres raisons pour lesquelles les esprits méchants ont le droit de faire du mal, mais les Écritures ne nous les révèlent pas car elles font partie des mystères, de ces choses cachées qui appartiennent à l'Éternel seul. Cependant, je reconnais qu'il est troublant de savoir que Dieu peut mettre fin à l'activité des anges déchus à tout instant et qu'il choisit de ne pas le faire. Je pourrais donc me révolter et lever le poing au ciel, mais à quoi bon? D'une part, ça ne changera rien. Et d'autre part, ce serait pure arrogance de ma part, parce que ça voudrait dire que je prétends mieux savoir que Dieu comment il devrait agir. Les Écritures enseignent que sur la croix, d'une part, l'acte d'accusation qui était dressé contre nous a été détruit, et d'autre part, Satan a été vaincu. En effet, l'apôtre Paul déclare que Dieu nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé le clouant sur la croix. Là, il a désarmé tout cortège, toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Fin de citation. En mourant crucifié, Jésus a réparé l'affront qui avait été fait à Dieu par le péché de l'homme. Son honneur bafoué a été lavé. Cependant, la victoire que le Seigneur a remportée sur Satan n'est pas pour son propre compte ou même celui de son Père, mais pour l'humanité. Jésus est le champion des hommes et c'est en leur nom qu'il a vaincu notre ennemi juré. Son expulsion du ciel est l'une des conséquences de la victoire de Jésus sur le diable. Je continue à lire dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. « Satan et ses anges furent précipités. Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait « Maintenant le temps du salut est arrivé. » Verset 10. La défaite sur la croix de Satan et de ses hordes de démons est suivie d'une sentence qui comprend plusieurs étapes. La première dont je viens de parler est leur expulsion du royaume des cieux où ils sont désormais persona non grata. Cet événement sans précédent déclenche une symphonie de louanges dans le ciel. Les adorateurs célestes se réjouissent d'autant plus qu'ils savent que comme Satan s'est fait jeter sur terre, d'ici peu, il sera enfermé dans l'abîme pendant 1000 ans. Puis de là, il sera envoyé à sa destination finale, les temps de feu, d'où il ne sortira jamais. Le texte ne précise pas l'identité de ceux qui louent Dieu d'une voix puissante, mais ce ne peuvent pas être des anges parce qu'ils disent que l'accusateur de nos frères a été jeté hors du ciel. Or, les anges se considèrent comme les compagnons de service des croyants et jamais comme leurs frères. Ces adorateurs sont donc forcément des croyants glorifiés, ceux du temps de l'Église et de la tribulation. La louange que Jean relate ici est en fait la continuation de l'adoration qu'il a déjà rapportée quand le septième ange sonna de la trompette et des voix retentirent dans le ciel. Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Christ. Il règnera éternellement. Et les 24 vieillards qui siègent devant Dieu sur leur trône se prosternèrent la face contre terre et adorèrent Dieu en disant « Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, nous te disons notre reconnaissance, car tu as mis en œuvre ton immense puissance pour établir ton règne. » Les croyants glorifiés se réjouissent tout d'abord parce que le temps du salut est arrivé. Il faut comprendre le mot « salut » au sens large du terme, c'est-à-dire la délivrance complète et définitive de la puissance et de la présence de Satan et du mal, ainsi que toutes les malédictions qui sont attachées au péché et qui affligent autant les individus que l'ensemble de la création. En effet, l'apôtre Paul écrit que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Je continue le texte. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Verset 10. Les croyants glorifiés se réjouissent, car le temps du salut est arrivé, et en second lieu, parce que le règne de Jésus sur terre, tant attendu, est enfin sur le point de se concrétiser. D'ailleurs, il est tellement certain qu'on en parle au passé, comme s'il était déjà là. Avant son ascension, Jésus a dit à ses disciples « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Mais jusque-là, le Seigneur ne l'a pas exercé. Cependant, il a commencé à imposer son autorité quand il s'est avancé pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Puis, il ne fait guère de doute que c'est lui qui a ordonné que tous les esprits impurs soient expulsés du royaume des cieux, car sans son aval, rien ne se fait. Ces deux événements sont les premiers de la série qui va mettre fin au mal dans l'univers pour le remplacer par le salut et aussi les raisons des louanges dans le ciel. Le diable est appelé l'accusateur de nos frères, or le nom Satan signifie l'accusateur. Tant qu'il avait accès au royaume des cieux, il pointait méchamment son doigt sur les croyants jour et nuit, c'est-à-dire sans arrêt. Les Écritures nous donnent deux exemples de ces accusations qui concernent des personnes de haut rang. Le premier, Job, est un patriarche d'une intégrité à toute épreuve, ce qu'il a d'ailleurs prouvé dans le creuset infernal où il fut plongé. Le second, Josué, est le grand prêtre de la colonie juive qui est retourné dans le pays d'Israël après l'exil babylonien. Faire tomber pour accuser, c'est le but de Satan et des esprits méchants. C'est aussi le sens de la mise en garde que l'apôtre Pierre nous adresse quand il dit « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » Je continue le texte du chapitre 12. Mais les frères ont vaincu leur accusateur grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Verset 11. Jean parle ici d'événements futurs, mais leur réalisation est tellement certaine qu'il utilise le temps du passé. La victoire des frères sur l'accusateur est déjà remportée, mais il faut noter qu'ils ne triomphent pas de lui au moyen d'incantations, de formules rituelles ou de séances d'exorcisme. C'est à Jésus que revient toute la gloire. Les réjouissances des croyants dans le ciel ont une seule raison d'être, son œuvre sur la croix. C'est la principale et de très loin la première opération militaire, pour ainsi dire, qui a triomphé du diable. Jésus est le champion de l'homme, et lui seul pouvait vaincre Satan et nous soustraire de sa puissance et de ses accusations malheureusement justifiées qu'il porte contre nous. Jésus a cloué sur le bois l'acte légal qui établissait notre culpabilité. C'est là, sur la croix, qu'il a désarmé toute autorité et tout pouvoir diabolique, et l'apôtre Paul écrit que Jésus nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Toutes les victoires contre les puissances des ténèbres et le mal en général ont été remportées par Jésus sur la croix, et c'est le sujet de louange des habitants des cieux. Précédemment, Jean a dit que les quatre êtres vivants et les 24 vieillards chantaient un cantique nouveau. « Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu par ton sang répandu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. » Il disait d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur et la gloire et la louange. » Et l'apôtre Pierre écrit, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Sous le couvert de « et grâce à la victoire de Jésus sur la croix », les croyants disposent de deux moyens de vaincre le diable et les démons. Premièrement, par la parole de leur témoignage. En proclamant la seigneurie de Jésus aux incroyants, ils rabattent le caquet du diable et ses prétentions hautaines sur Dieu et l'homme. En soi, ce dernier est une qualité négligeable. Un être insignifiant noirci par le péché, mais quand il fait confiance au Seigneur Jésus et annonce sa souveraineté, il glorifie Dieu et devient grand. Cela est d'autant plus vrai si, par son témoignage, le croyant doit mettre sa tête sur le billot. En effet, le second moyen de vaincre le diable est de ne pas aimer la vie jusqu'à redouter de mourir. Le niveau supérieur de la vie chrétienne, c'est aimer Jésus plus que tout, au point où l'amour de soi est en seconde, troisième ou une autre place encore inférieure. Celui qui est prêt à mourir pour prix de sa fidélité à Jésus, ravit au diable son arme ultime qui est le pouvoir de la mort. En effet, il est alors uni à son Sauveur qui a réduit à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. L'expulsion de Satan et des anges déchus du royaume des cieux a deux conséquences, des réjouissances et des lamentations. Je continue le texte du chapitre 12. Réjouis-toi donc, ô ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous, mais malheur à la terre et malheur à la mer. Le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Verset 12. À cause de la défaite assurée de Satan, le cœur céleste des rachetés entonne un chant de triomphe. Mais cette manifestation de joie est tempérée par une mise en garde qui fait froid dans le dos car le diable est rempli de rage. Ce mot signifie une violente fureur irrationnelle. Le diable est plus que jamais un adversaire, mais au lieu de rôder comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer, il est plutôt comme un lion en cage, enragé d'avoir été expulsé du ciel. Il est fou furieux et lance des regards pleins de haine autour de lui. Sa rage est d'autant plus violente qu'il sait qu'il a peu de temps, exactement 3 ans et demi pour mener un assaut final contre les Juifs et les croyants, ce qu'il ne va pas manquer de faire pendant toute la durée de la seconde moitié de la tribulation. C'est à la fin du XIe siècle que la première croisade a été l'occasion de la première grande vague de persécution du peuple juif en Europe. En route vers la Palestine, les croisés ont détruit les villages juifs sur leur passage et massacré leurs habitants. Depuis, l'antisémitisme n'a jamais cessé, mais le pire est encore à venir. Les prophètes, Jésus et l'apôtre Jean, rapporte les mêmes scènes d'horreur. Selon le prophète Zacharie, les deux tiers des Juifs seront mis à mort, mais le petit reste rescapé d'Israël, qui aura reconnu en Jésus son Messie, sera protégé et entrera dans le royaume en même temps que les croyants ressuscités de l'Ancien Testament. Au cours des trois premières années et demie de la tribulation, sous l'impulsion de Satan, l'Antichrist étendra son pouvoir jusqu'à devenir le plus grand despote mondial. Il se posera d'abord en protecteur d'Israël, mais au milieu des 7 ans de la tribulation, il rompra son alliance avec les Juifs et les persécutera violemment pendant la deuxième moitié de la tribulation. Je continue le texte. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde le garçon. Verset 13. Alors qu'il pourchasse la femme, c'est-à-dire Israël, le dragon respire le meurtre. C'est son objectif. La traîtrise de l'Antichrist prendra la nation juive totalement par surprise et la placera dans une situation désespérée. Mais Dieu viendra en aide à son peuple qui recevra l'aide des croyants des nations païennes. Je continue. Mais les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole vers le désert jusqu'au lieu qui lui est réservé. Verset 14. Dans les Écritures, les ailes de l'aigle symbolisent la force, mais surtout la protection divine. L'Éternel a dit à son peuple, « Vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. Tout comme l'Éternel a délivré les Hébreux de l'esclavage égyptien, il emmènera Israël en lieu sûr. » Moïse écrit que l'Éternel fut comme un grand aigle qui pousse sa couvée à prendre son envol, planant sur ses aiglons, puis étendant ses ailes, il les a pris et portés sur ses ailes. L'endroit où les Juifs se réfugieront ne nous est pas donné, mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le conseil que Jésus donne aux Juifs de fuir vers les montagnes suggère que cette retraite n'est ni dans la plaine côtière à l'ouest de Jérusalem, ni dans la région désertique du Négev au sud, mais se trouve quelque part dans la région montagneuse à l'est de Jérusalem. On a suggéré Pétra, l'ancienne capitale des Édomites qui est située entre la mer Morte et le golfe d'Aqaba et qui est aujourd'hui abandonnée. Cette ville est sculptée dans les falaises rocheuses et uniquement accessible par une gorge étroite, ce qui fait qu'elle était facile à défendre, du moins du temps de l'Antiquité. Et comme elle s'ouvre sur une large plateforme, elle peut facilement accommoder plusieurs milliers de personnes. Je continue le texte. Là, la femme, c'est-à-dire Israël, doit être nourrie pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Verset 14. Cette durée, tirée du livre de Daniel, est de 3 ans et demi et correspond à la deuxième moitié de la tribulation. Coupée du reste du monde, réfugiée dans la montagne et menacée, les Juifs auront besoin d'une aide extérieure pour survivre. Mais Dieu pourvoira de manière surnaturelle à leurs besoins, comme il l'a fait pour leurs ancêtres, en faisant pleuvoir de la manne et des cailles dans le désert, et plus tard pour le prophète Élie. Il ne fait guère de doute que l'Antichrist sait où les Juifs sont réfugiés, mais Dieu arrange les circonstances de manière à ce qu'il échoue dans sa première tentative de les détruire. Mais qu'à cela ne tienne, il se lance dans une nouvelle attaque contre eux. Je continue. Le serpent vomit de sa gueule derrière la femme de l'eau abondante comme un fleuve pour qu'elle soit emportée dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la femme. Elle ouvrit sa bouche et absorba le fleuve que le dragon avait vomi de sa gueule. Versets 15 et 16. Dans l'Ancien Testament, les inondations représentent souvent une invasion. L'Antichrist lance ses forces terrestres contre les Juifs, mais apparemment, elles sont détruites par un tremblement de terre, tout comme les armées de Pharaon furent englouties par les eaux de la mer Rouge. Je finis le chapitre 12. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Il se posta sur le rivage sablonneux de la mer. Versets 17 et 18. Fortement contrarié par les deux échecs qu'il vient d'essuyer, le dragon qui est derrière l'Antichrist persécute maintenant tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Plus loin, il est dit qu'il doit faire preuve d'endurance parce que beaucoup d'entre eux périront. Une fois que ses troupes cherchent les croyants partout où ils peuvent se terrer, l'Antichrist prend position sur le rivage pour attendre la bête qui va monter de la mer et qui sera son allié et son instrument dans la guerre qu'il veut poursuivre contre les enfants de la femme, c'est-à-dire les Juifs. Aussi terrible que fut la solution finale d'Hitler, ce n'était qu'un avant-goût des massacres que l'Antichrist organisera autant des Juifs que des fidèles du Seigneur.